Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective, la capacité à faire un pas de côté sur son individualité pour faire, devinez quoi, la guerre à la guerre. Peut-être que vous commencez à être familier avec cette introduction qui dure déjà depuis une presque quinzaine d'épisodes. Et oui, nous avançons pas à pas, mais ce qui est certain, c'est que nous progressons dans le podcast pour nous diriger vers un environnement où nous serons, dans une certaine mesure, avec les idées qui auront été explorées dans le podcast depuis, 264 épisodes, un système, un mécanisme qui nous permettrait de vivre en paix et qui serait capable d'accompagner un système pacifico-industriel, c'est-à-dire un système capable de promouvoir non pas la militarisation des espaces et de notre environnement à échelle locale, autant que globale, mais de promouvoir la paix, sans forcément se servir du pire, en se servant du mieux. Alors, après tout, il y a une certaine dualité et fond forme avec cette histoire. C'est un peu comme le loup blanc et le loup noir de la légende qui raconte une discussion entre un grand-père et son petit-fils sur l'animal que l'on choisit de nourrir en permanence au quotidien. Il y a un mauvais loup et un bon loup. Le loup que l'on apprivoise étant celui qui s'exprime le plus et qui est le plus près de nous, c'est un petit peu la même chose. Dans un environnement qui est perturbé, nocif, difficile, challengeant, où on a de la rancœur, où on souffre, où on se compare, où on rivalise, où on est en compétition, mais c'est pas nécessairement ça. Ce qu'on développe, c'est clairement une attitude qui vise à bouffer l'autre, littéralement, parce que nous sommes mis à mal dans cet écosystème et pour défendre notre survie dans cet écosystème, en fonction des besoins qui nous sont propres, et là on peut se référer à la pyramide de Maslow par exemple, que certains considèrent comme une illusion dans la vie de tous les jours, néanmoins ça peut nous servir de référence, que ce soit des besoins primaires comme ceux liés à la survie animale du point de vue de la nourriture, de l'habitat, ou encore du point de vue beaucoup plus social et très secondaire, mais néanmoins existant, celui de la reconnaissance. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de système exponentiel, nous allons parler de la route de l'exponentiel, ou j'hésite à dire les routes de l'exponentiel. En réalité, il n'y a pas qu'un chemin. Il y a le vôtre, il y a le mien, il y a le nôtre, il y a ceux des autres, et il y a le nôtre au complet. Donc, bien sûr qu'il y a des méthodes qui sont transposables, il y a des choses qui sont applicables dans différents environnements, que l'on peut adapter, que l'on peut faire évoluer, que l'on peut, transposer. Ça ne veut pas dire qu'on sera mangé à toutes les sauces à chaque fois. Je vais vous parler d'un mécanisme que j'ai mis en place pour mesurer ma progression depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semaines, ce qui correspondra à la fin de cette semaine à 91 jours, si mes calculs sont exacts. 13 fois 7 est égal à 91. En réalité, 91 moins 4 égale 87. Je vais vous expliquer en détail comment est-ce que je suis passé de 1, l'état de Pierre début octobre, première semaine d'octobre, à 2, l'état de Pierre à la deuxième semaine de janvier. Comment est-ce que j'ai monté un échelon, j'ai gagné une promotion dans ma vie en prenant certaines mesures, en ayant une certaine vision, en associant des objectifs à mon quotidien et en mettant en œuvre tout un tas de moyens qui font que je peux estimer, et c'est un point de repère, c'est une façon de se projeter, elle est pleine de controverses, cette façon, et ça ne me dérange pas. On peut la critiquer, on peut la caresser dans le sens du poil, on peut lui dire des mots doux autant qu'on peut l'insulter. J'en ai rien, strictement rien à faire. C'est ma méthode. Et vous aurez le droit de l'utiliser ou de marcher dessus, que ça ne changera pas tout le pouvoir que moi, je lui ai accordé pour passer de 1 à 2. Et j'entends bien faire une chose. C'est passer de 2 à 4. Passer de 4 à 8, de 8 à 16, de 16 à 32. Et j'aimerais bien savoir exactement combien de temps ça me prendrait pour arriver jusqu'à 100. À quel moment est-ce que je serais capable de dire « Je vaux aujourd'hui 100 fois la personne que j'étais hier ?» Ça, c'est ambitieux. Ça, c'est ambitieux, effectivement. Et y aura-t-il des objectifs cohérents associés avec ça? Je me le souhaite. Néanmoins, je vais vous exposer les bases de mon raisonnement. Vous connaissez probablement les systèmes exponentiels. Par exemple, la fonction au carré. Quand on appuie sur sa calculette à partir de plus de 1 au carré, eh bien, on obtient une courbe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte vraiment à l'infini et d'une manière très très rapide. Ça ne marche pas avec des chiffres entre 0 et 1. Ça marche en négatif avec des chiffres inférieurs à 0. Ça n'évolue pas avec le chiffre 1. Et ça évolue de manière exponentielle et positive à partir de 1,000, autant que vous voulez, tant que c'est supérieur à 1. Autant de 0 que vous voulez après la virgule, tant que c'est supérieur à 1. Donc la vision que j'avais adoptée, c'était de me baser sur les effets composés pour dire comment est-ce que je peux réinvestir en moi sur le même principe que des personnes peuvent investir dans l'immobilier, peuvent investir en bourse, peuvent investir dans des entreprises pour faire fructifier leur argent, peuvent investir dans des prêts, n'importe quel moyen qui leur rapporte de l'argent, mais de manière à ce que ça me rapporte à moi sur le plan de mon développement personnel. Et que derrière, je puisse, oui, aussi y associer des objectifs, pourquoi pas matériels, financiers, on va dire tangibles. Quelque chose qui est palpable, de la matière tangible, que je peux prendre entre mes mains. Comment est-ce que j'ai fait ? La vision, ça a été de me dire que ça, déjà, c'était possible. Je vais. La formulation était importante. La formulation est toujours importante. Les mots ont un impact. Les mots ont du pouvoir. Et d'ailleurs, on en a parlé dans les épisodes précédents. Utilisez les bons mots pour ne pas vous créer de mots, MLUX. Soyez un docteur préventif plutôt qu'un docteur curatif. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir, bien que parfois on doive s'adapter aussi aux aléas de son quotidien. Alors imaginons. La vision est la suivante. Demain, je suis 2 fois la personne que j'étais hier. Je n'y mets pas de date. Mais je sais que je vais y arriver. Et puis je sais que ça va me prendre un petit peu de temps. Parce que c'est pas juste en faisant un pas avec des bottes de 7 lieues magiques que, honnêtement, je vais réussir à faire le passe-montagne et à me transformer en un pierre qui fait 3 mètres de haut. C'est pas l'idée. Non pas que je fasse 1,50 m et que 1,50 m x 2 ça fasse 3 mètres. Mais je risquerais plutôt une élongation de l'entrejambe à vouloir sauter trop loin, trop grand, trop élastique, sans avoir cette souplesse, en n'étant pas capable d'atteindre mes ambitions à travers des objectifs surréalistes, beaucoup trop challengeants, qui ne sont même pas possibles tels que je les ai imaginés. Donc voilà la vision. Devenir 2 fois meilleur que la personne que je suis aujourd'hui. Sur quoi on se base quand on dit 2 fois meilleur ? Pour le coup, ma base de travail, elle est entrepreneuriale. C'est assez simple. C'est relatif au travail, mais pas que. Quand on monte sa société ou qu'on monte sa structure pour travailler avec d'autres gens, oui, il y a une dynamique professionnelle, mais il y a aussi une dynamique personnelle. Est-ce que je suis capable de faire les efforts que j'imagine avoir à faire pour être en mesure de trouver des missions qui vont me rapporter de l'argent ? Est-ce que les missions que je vais proposer vont correspondre à la volonté des gens à travailler avec moi ? Comment je vais faire pour leur dire « je suis la bonne personne pour t'aider, pour t'accompagner, pour te challenger, pour te coacher, pour te faire voir plus grand, pour te faire voir différent, pour te faire voir mieux. » Ça, c'est aussi une question d'attitude, une question de posture. Ce sont des réflexes qui ne sont pas uniquement professionnels, ce sont des compétences en savoir-faire, en savoir-être, qui font partie de nous. C'est pas être capable uniquement de faire des calculs, pour le coup, exponentiels, sur une feuille de maths, sur une feuille blanche, ni sur un tableau Excel. Ça va au-delà de ça. Ça va dans la gestion de projet, ça va dans l'accompagnement. C'est un prolongement de soi. C'est pas « bonjour, à 8h, je me transforme avec ma casquette d'ouvrier du quotidien, et ce n'est qu'une image, pour quitter mon bureau à 17h et redevenir la personne que je suis avec la personne avec qui je vis. » C'est vraiment une prolongation de qui on est. Et donc, les challenges qui y sont associés sont à la fois personnels et professionnels. Alors, vous allez me dire, oui, on pourrait émettre cette grande question de débat non débat sur le fait que, de toute façon, à partir du moment où on va au travail, quand on a un emploi, par exemple, on peut mettre un costume virtuellement, mais on est toujours la même personne. Oui. Mais on n'a pas nécessairement le même pan de notre personnalité qui s'exprime au travail avec des collègues, même si on est proche d'eux, que quand on est à la maison, chez soi, avec sa famille. Si vous arrivez à faire ça, c'est tant mieux, je trouve que c'est vraiment chouette, alors vous savez très bien ce que je veux dire. Et si vous ne le faites pas, vous savez aussi très bien ce que je veux dire, justement parce que vous avez cette cassure. Toujours est-il que il s'agissait, tout début octobre, de mettre en branle une dynamique avec une inertie liée à du réinvestissement continu. Les routes de l'exponentiel, je vous ai déjà parlé, ça vous fera penser peut-être aux routes de soi. Non pas aux routes de la soie, mais aux routes de soie. Pour le coup, oui, il y a une notion d'histoire qui représente les flux d'informations et de ressources humaines et matérielles, de services même, qui fluctuent, ont fluctué par les grandes routes reliant les pays de l'Orient à ceux de l'Occident, et s'étendant vers les Amériques pour échanger des biens, des services, des richesses et faire circuler, littéralement, eh bien, la valeur, les valeurs du commerce mondial. Ces routes ont semé la mort, elles ont semé la vie, elles ont semé l'argent, elles ont semé la culture, elles ont semé ces mêmes informations que je viens de vous donner au pluriel. Elles les ont semées pendant des centaines et des centaines d'années. Je vous invite sincèrement à découvrir les écrits illustrés ou bien simplement romancés, même si ce ne sont pas des romans, c'est basé sur de l'histoire, donc ce sont plus des faits. Je vous invite à décrire les ouvrages de Peter Frankopan, qui est professeur à Harvard, professeur émérite d'histoire, et qui a été extrêmement promu sur ses travaux autour des routes de la soie. Je vous invite à découvrir des personnalités, par exemple comme Idrissa Berkane, qui en parle avec force de conviction sur leur utilité et leur importance et sur l'enjeu géopolitique qui y est associé, en sachant que les enjeux géopolitiques dont on parle ont des conséquences extrêmes sur notre quotidien de nous qui habitons là et qui connaissons juste notre boulanger, le boucher et le charcutier, quoi. Oui, ça a des conséquences sur les gens du quartier. Et c'est faire l'autruche que de s'imaginer ne pas être impacté par des décisions qui sont prises dans des sphères stratosphériques par rapport à des ruraux, mais qui ont une réalité sincère sur leurs conditions de vie, pas forcément du jour au lendemain, mais de la décennie à la suivante. Ne serait-ce qu'en 5 ans, on voit les choses évoluer. Alors en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, quand on entend la Chine en 2013 qui dit qu'elle a une stratégie à 100 ans, par exemple, en lien avec les routes de la soie, je vous garantis que nous, par exemple, je vais me baser sur les Bretons, la Bretagne, puisque je suis originaire de Bretagne, eh bien, ça va nous impacter, les Bretons. Les Normands, ce sera pareil. Les gens du PACA, ce sera pareil. Les gens de Corse. On a beau dire, en France, parce qu'on est chauvin et qu'on a le sang chaud en ce qui concerne simplement le fait qu'on soit français, qu'on aime bien râler, que c'est un modèle mental, d'ailleurs, que celui de râler, et que nous défendrons nos convictions coûte que coûte, parce que nous sommes un vieux pays du vieux continent, eh bien, on en prendra plein la figure à un moment donné, parce qu'on n'aura pas assez réinvesti de notre histoire pour construire notre futur. Et parce que tout un tas de modèles mentaux créent l'illusion que nous sommes des maîtres armés du monde en faisant partie des plus grosses puissances mondiales, et c'est complètement faux. C'est une illusion. C'est une illusion dans laquelle nous sommes bercés par les médias, qui sont possédés à 90-95% par quelques personnes, des tout petits groupes qui sont capables de faire évoluer l'opinion publique, qui sont capables de le faire converger d'une manière ou d'une autre, qui sont capables de le faire évoluer de manière extrêmement volatile, de rassembler autant que de diviser. C'est absolument incroyable les effets que l'on peut associer à une diffusion massive d'images, de textes, de vidéos, de contenus au sens large sur des populations extrêmement ciblées. Regardez l'élection de Trump, par exemple, aux États-Unis, il y a quelques années à peine. Vous voyez où ça a mené le pays. Vous voyez les liens qu'il peut y avoir entre une personnalité comme Donald Trump et la Russie, et les services secrets russes. Voyons le lien qu'il peut y avoir entre la Russie et puis la Chine. Voyons les liens qu'il peut y avoir entre la Chine et puis la France. Voyons les liens qu'il peut y avoir entre les politiques gauchistes de certains de nos politiciens qui sont bien amenés auprès de la Chine et qui pourtant subissent les politiques macroniennes, par exemple, qui, elles, se rapprochent peut-être un peu plus de celles du Canada en apparence et qui n'ont absolument rien à voir parce qu'elles sont vraiment portées par les industriels puissants de notre petit continent via des personnalités, et il n'y en a que peu, mais elles existent, qui sortent de l'élite nationale, de l'élite internationale, scolaire. Le corps des mines, par exemple, qui rassemble les meilleurs ingénieurs qui sont censés être formés au service de l'État, et qui parfois, parce que le système est vieux et corrompu, pille les ressources qui sont produites en réalité par des citoyens comme eux-mêmes, vous et moi. Être en mesure de réinvestir, c'est pas simplement déplacer de l'argent, c'est pas simplement déplacer des efforts, c'est où est-ce qu'on les déplace ? Pourquoi est-ce qu'on les déplace là-bas ? Qu'est-ce qu'on veut devenir demain en le faisant ? Quel risque est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie quand c'est comme ça ? Et à quoi ça va nous servir ? C'est pour le challenge ? C'est pour se faire plaisir ? C'est pour justifier qu'on est capable de ? C'est par ego ? Ou c'est une volonté beaucoup plus profonde, beaucoup plus structurelle, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus identitaire ? Si c'est que pour répondre à 5 amis qui nous piquent de temps en temps, il y a de fortes chances pour que ce soit un échec. Non pas parce qu'on n'y arrivera pas, mais parce que ça aura été fait pour de mauvaises raisons. Donc, le premier conseil que je peux vous partager, après ce discours un peu illuminé, vous me direz peut-être, ce sera de savoir où vous allez. Pourquoi vous faites un tel défi ? Pourquoi est-ce que vous réinvestissez en vous ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Vers où vous allez vous diriger ? Qu'est-ce que vous allez y gagner ? Être deux fois la personne que je suis aujourd'hui ? Super. Qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est un peu comme si vous disiez à un enfant, tu montes tout en haut du toboggan pour en descendre. Si l'enfant bloque une fois qu'il est en haut, il aura accompli un super truc. Mais il va falloir aller le chercher. L'ambition, c'est d'être en mesure de monter en haut du toboggan et de le dévaler de manière à passer la seconde vitesse. Et non pas de le dégringoler. Donc, partie de ce constat que je souhaitais, à un moment donné, devenir le double de moi-même, en relançant mon activité pour une énième fois, eh bien, j'ai eu cette vision que je voulais devenir extrêmement bon, extrêmement performant. Et le côté performance m'attire, c'est comme ça, c'est un matching, c'est un bon matching. J'ai beaucoup travaillé dessus quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup travaillé dessus ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé dessus dans mon quotidien. Bon, bah, ça fait partie de mon identité, de l'identité que je me suis construite, ça fait partie de l'histoire que je me suis racontée, ça fait partie des efforts que j'ai déployés, ça fait partie de ce que je projette de moi demain. Donc c'est cohérent, c'est congruent avec ce que je fais. C'est congruent, ça veut dire que ce que je dis et ce que je fais matchent ensemble. Il a fallu ensuite se dire, ok, maintenant, j'y vais. Mais comment est-ce que je vais mesurer ma progression? Comment est-ce que je vais pouvoir devenir le double de moi? Qu'est-ce que j'entends même par dire être le double de soi? Ça signifie quoi dans mon quotidien? Parce que, c'est, à la limite, sur 10 ans, ok, ça peut être super, mais tous les jours, là, qu'est-ce qui se passe de mieux? J'ai quoi en plus? J'y gagne quoi? Eh bien, c'est là où arrivent les objectifs. Les objectifs pour répondre à la vision. Donc, pour le coup, je vous rappelle que ma vision, c'était de devenir deux fois la valeur que j'avais au moment où je me suis dit challenge, selon les critères de performance. C'est quoi la performance? Bah, c'est la réussite. Est-ce que je réussis ce que j'entreprends? Ce que je cherche à accomplir? Est-ce que je fais ce que je dis? Est-ce que je me lève le matin pour devenir meilleur que la veille? Est-ce que je me fixe des objectifs? Est-ce que ces objectifs sont ambitieux? Est-ce que ces objectifs sont réalistes? Est-ce que ces objectifs répondent quand même à des mécanismes de challenge? Est-ce que je suis motivé pour ces objectifs parce que derrière il y a une récompense? Ou bien parce que c'est ma motivation intrinsèque? Ou bien c'est parce que j'ai mis en place des critères de motivation extrinsèques qui viennent de l'extérieur? Parce qu'il y a d'autres personnes qui le font avec moi? Est-ce que ça correspond à gagner plus d'argent? À combien d'argent est-ce que ça correspond? Est-ce que ça correspond à des missions, des emplois, des postes que je vais trouver qui correspondent à une étape supérieure par rapport à ce que moi j'imagine être une étape supérieure? Qu'est-ce que ça veut dire supérieur? Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que c'est de la quantité? Est-ce que c'est les deux? Quel type de qualité? Quel type de quantité? Le critère principal lié à la performance, il y en a deux. Il faut absolument que je retrouve ce bouquin qui vient de sortir. Donc si vous avez le titre, je serais ravi, vous m'en seriez ravi que vous me le partagiez, d'une chercheuse qui parle, et je l'ai découvert aujourd'hui en plus, c'est ça qui est assez dingue, à croire que les réseaux sociaux me font littéralement de l'inception et écoutent complètement nos conversations. La réponse étant oui. Et qui parle de la performance comme étant l'ultime intelligence, en faisant notamment 16 portraits de personnalités qui sont très performantes, donc d'un certain point de vue, les plus intelligentes. On parle beaucoup des intelligences. Il peut y avoir l'intelligence émotionnelle, l'intelligence verbale, l'intelligence situationnelle, l'intelligence tripale. Il y a de nombreux types d'intelligence. Et bien visiblement, pour elle, et ça doit être son parti pris également pour son ouvrage en tout cas, ceux qui sont performants sont les plus intelligents. Bon. Alors je vous avoue que c'était pas l'idée du modèle que j'avais au départ quand j'ai commencé début octobre 2020. J'avais réfléchi à ça en fin septembre. Et je me suis dit, être performant, c'est basé sur les résultats. Le champion olympique, c'est celui qui a la médaille du numéro 1. Le champion du monde, c'est celui qui a la médaille du numéro 1. Tiger Woods, quand il est numéro 1 et qu'il est payé 1 milliard d'euros, c'est parce qu'il met toutes ses balles dans le trou en un minimum de coups. Cristiano Ronaldo, quand il obtient un contrat de 1 milliard de dollars à vie avec Nike, c'est parce que c'est le meilleur joueur de football au monde. Il est entrepreneur, il est businessman, il est modèle, il est mannequin, c'est un athlète de haut niveau, c'est une personnalité dans la mode, c'est une personnalité dans le business. Il est réputé pour avoir le sens de la famille et des responsabilités. Son couple a l'air stable. Je ne suis pas beaucoup les réseaux sociaux, donc ça, j'assume que je peux avoir faux. C'est l'image qu'il renvoie en tout cas, et ça c'est très travaillé également. Mais on pourrait prendre ce gars-là et le transposer dans tout un tas d'environnements où on prend les numéros 1. Et je vous avais déjà parlé de l'épisode de design d'une expérience de haut niveau, c'était le design d'une HLE. Il me semble que c'était dans la saison 3, la fin, et c'était l'épisode numéro 136 que je vous invite à écouter. Le fait est que l'épisode 137 était dédié à l'environnement personnel de la préparation à l'atteinte de ses objectifs. Donc, à nouveau, c'est extrêmement lié, parce que les gens extrêmement performants sont aussi des personnes qui ont une vie plus agréable. Et c'est assez paradoxal par rapport à l'investissement que font leurs concurrents qui sont moins bien classés et qui sont ce qu'on appelle des médaillables, les gens qui n'obtiennent pas de médaille mais qui font du sport aussi de très haut niveau. Imaginons, vous voyez tous les 4 ans le 100 mètres aux Jeux Olympiques, et vous voyez, vous avez déjà peut-être vu Usain Bolt remporter sa deuxième victoire olympique, et derrière lui, il y a le deuxième, oui, super, il y a aussi le troisième, et puis il y a tous les autres. Il n'y a pas le quatrième, cinquième, sixième, septième, il y a tous les autres. Eh bien, ce qui a été démontré sur plusieurs milliers de personnalités du sport de haut niveau, dans différentes disciplines confondues, c'est en réalité que les premiers arrivent mieux à coordonner leur... On va dire, arrivent à avoir une meilleure qualité de vie. Ils coordonnent mieux leurs efforts professionnels avec leurs efforts personnels. Ils coordonnent mieux les différentes personnalités qui font leur identité. Ils coordonnent mieux l'ensemble de leurs efforts pour être moins stressés, plus détendus. Et en plus, ils font plus d'activités et ils travaillent un petit peu moins leur sport, par exemple le fait de courir le 100 mètres, par rapport à leurs concurrents qui sont un petit peu plus loin dans le classement. Et ça, c'est tout à fait dingue. Pour être premier, il faudrait donc que j'ai beaucoup travaillé à un moment pour être capable de devenir très bon, très très bon. Donc là, ce sont des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Mais contrairement à ce que je pourrais penser, ce n'est pas l'acharnement non thérapeutique qui va me faire bosser plus que les autres qui va me permettre de finir premier. Là, je pourrais juste être très bon. Mais c'est bien le fait que je sois beaucoup plus à l'aise avec ce travail intensif et le fait que je vive d'une manière agréable. Le plaisir comme stratégie. On en revient toujours là. Est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais ou pas? Et est-ce que ce plaisir est épanouissant ou est-ce que ce plaisir est limité à mon environnement de travail? Dans les objectifs que je me suis fixés, j'ai donc fixé des objectifs relatifs au montant d'argent à gagner. Combien je veux gagner? Combien j'ai besoin pour vivre? Combien il me faut à la fin du mois pour dire « Waouh !» Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup aujourd'hui. Est-ce que x10 par rapport à aujourd'hui, c'est possible? Ça peut être ambitieux? Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. parce que j'ai pas des étapes intermédiaires à mettre en parallèle. Qu'est-ce que j'aime faire? Ah ben, j'aime bien marcher. J'aime bien aller faire une petite balade à côté de chez moi. Je peux peut-être prendre le temps d'aller me balader une heure pour lire, pour faire des cours en ligne, pour prendre l'air, pour respirer, pour admirer la nature. Parce que ça me fera du bien déjà au cerveau, pour cogiter, pour respirer, pour m'aérer, pour m'oxygéner, pour réfléchir, pour penser à autre chose, pour évacuer, pour déstresser. Peut-être que j'aurai besoin de faire un petit peu de sport aussi, mais pas contraint. Parce que j'ai envie d'en faire, parce que ça me plaît. Ou du dessin, ou de la lecture, ou de la peinture, ou de la photo. Et puis peut-être que je vais devoir aussi, et là pour le coup ça va être mieux mobiliser ma concentration pour lire plus de bouquins, travailler ces bouquins, mettre en place des stratégies d'apprentissage, mettre en place des stratégies de retranscription de l'apprentissage. Est-ce que j'ai bien digéré tout ce que j'ai lu? Est-ce que je le mets en œuvre? À combien de personnes j'en parle? Combien de personnes ont accepté de prendre rendez-vous avec moi? Est-ce que ça va me permettre de faire des présentations de mon activité? De ce que j'ai choisi de faire? De ce que j'ai choisi de promouvoir? Est-ce que ça va bien plaire? Combien de personnes je rencontre? Combien acceptent de recevoir un devis de ma part? Combien acceptent de signer? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser quand on est entrepreneur, par exemple, ou commercial. C'est quels sont les efforts que je mets en œuvre pour générer du chiffre d'affaires et vivre. Vivre de mon activité, vivre de mes commissions, vivre d'un salaire que je me crée. Il n'y a pas besoin d'argent pour créer de l'argent, pour faire de l'argent. Ça, c'est dingue. On vit dans une époque où il y a du pognon partout. Il suffit presque de se pencher. Faut-il encore avoir appris à se pencher aux bons endroits? Moi, j'ai pas spécialement appris au départ, donc j'ai dû bosser dessus, là aussi. L'argent, le rapport à l'argent. Le mental, le rapport au mental. Le physique, le rapport au physique. L'intellectuel, le rapport à l'intellectuel. L'efficience, la performance, l'efficacité. Il y a très peu de bouquins sur l'efficience. Et ceux qui en parlent n'en parlent pas bien. C'est dur à faire. C'est dur à dire, c'est dur à décrire, c'est dur à mettre en place. Donc, lister ces choses-là et dire à la fin de la journée, oui, je l'ai fait, non, je ne l'ai pas fait. De manière à ne pas m'éparpiller. L'objectif a été tous les matins de me mettre en place 10 objectifs à accomplir dans la journée. Parmi ces 10 objectifs, il y avait de tout au départ, et ça a évolué petit à petit. Mais au départ, ça pouvait juste être bien m'habiller pour me sentir bien. Vous savez qu'on a eu une grosse période de confinement. Eh bien, passer sa journée en jogging, passer sa journée avec un vieux t-shirt qui avec un vieux t-shirt, quoi, avec des trous dedans qui sont pas bons dès la première journée qu'on l'a porté, parce que le tissu est vieux, parce que le coton s'est imprégné de plein d'odeurs, parce que la machine, parce que la transpiration, parce que tout un tas de choses. Ah oui, mais c'est le pyjama de la maison, quoi, c'est le pyjama dans lequel avec lequel on s'habille. Vous le connaissez, ce pyjama. Forcément, votre papa l'a forcément porté un moment, et vous aussi probablement. Femmes ou hommes, c'est pareil, on a tous ce pyjama, le pilou-pilou. Bon, peu importe, vous lui donnez le nom que vous voulez. Eh bien, changer d'attitude par rapport à ça, c'était important pour moi et ce n'était pas naturel. Et c'était même pas naturel. Donc, il a fallu trouver le moyen d'exprimer des choses différentes dans mon quotidien. C'est passé par le fait de réagencer mon environnement pour me dire... C'est quoi les trajets que je fais? Qu'est-ce qui est à portée de main? Qu'est-ce que je touche en permanence? Et qu'est-ce qui va me permettre d'optimiser mes trajets de manière à ce que si j'ai envie de mieux manger, j'ai juste à piocher une clémentine qui est en face de moi et elle ne sera pas au fond de la cuisine. J'aurai pas besoin de me lever en permanence pour arrêter de travailler, puis pour m'y remettre, puis pour arrêter de travailler, puis pour m'y remettre. Ça, c'était des exemples. Donc, mieux m'habiller, faire une to-do, les trucs que j'ai à faire aujourd'hui qui sont importants. Ça peut être de la création de documents, avancer de 5 pages aujourd'hui, enregistrer un épisode de podcast, lire un chapitre de livre, faire une session de sport, faire une balade d'une heure, travailler 6 heures de manière efficiente sur des journées qui en faisaient parfois plus de 12, entre 12 et 14, pas toutes hein, au début. Mais ça fait mal aux fesses quand on commence à arriver à comprendre que sur 12 heures pendant lesquelles on a été mobilisé pour son travail, on en a à peine travaillé que 6. Bah comment est-ce que je fais pour passer à 7, puis à 8, puis à 9, puis à 10, puis à 100% des heures que je bosse? Donc tout ça, c'est des étapes de progression. Donc il y en a 10 chaque jour. Et chaque objectif atteint vaut 1 point. Il y a donc 10 objectifs chaque jour. Et ça fait 10 points. Ses objectifs sont liés à son quotidien, sont liés à ses ambitions, sont liés à une manière de se projeter dans le futur. Et ensemble, ils valent 10 points. 10 points, ça fait 1%. Jusqu'ici, j'espère que vous me suivez. Ça veut dire que accomplir tous mes objectifs fait 1% de mieux que la veille. Ou plutôt... Oui, c'est exactement ça. Mais la combinaison entre mon mois de la veille et mon mois d'aujourd'hui, c'est la multiplication du résultat de la veille. Eh bien, par exemple, si c'était le jour 1, je pars de la veille, j'étais à 1. J'atteins tous mes objectifs du jour. Je multiplie 1 par 1,01. Et ça me donne 1,01 comme résultat au premier jour. Et on progresse comme ça dans le temps. Donc j'ai noté tous les jours ma progression. Je peux vous donner les chiffres. Par exemple, pour la première semaine d'octobre, j'étais à 80%, 90%, 75%, parce qu'il y avait des sous-objectifs. 0%. Il y a dû avoir un jour où j'ai sauté quelque chose. 95%, 100% et 100%. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai arrêté de mettre des sous-objectifs. C'était plus simple au bout d'un moment. Toujours est-il que la première semaine, j'étais passé à 1,055 fois la personne que je valais la semaine d'avant. Donc, j'ai mesuré une avancée, une progression. Cette progression, elle ne pouvait pas aller à reculons. Elle pouvait juste aller un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement. C'est-à-dire que de toute façon, je faisais les efforts pour progresser. Maintenant, est-ce que ces efforts étaient bien orientés? Eh bien là, on peut parler des moyens. Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre qui me permettait vraiment d'être deux fois la personne que je valais la veille sur le plan de la performance, sur le plan de la réussite? Est-ce que... Je faisais le bon chemin pour aller vers la place de numéro 1 sans avoir de compétiteur autre que moi-même. Eh bien, je vous ai par exemple, j'ai commencé par vous dire bien m'habiller pour bien travailler, bien m'habiller pour me sentir bien. C'est toujours un pour quelque chose. Au début, c'était vachement important. Travailler sur l'estime de moi, sur la valeur, sur ma valeur personnelle. Je vous garantis que en 87 jours, puisque ça fait 87 jours, il me semble, peut-être, ça fait 87 jours aujourd'hui, ça a beaucoup bougé, mais ça n'aurait jamais bougé autant sans être capable de travailler dessus d'une manière aussi pointilleuse, mesurée. Donc ça, par exemple, c'était des objectifs intéressants au départ. Petit à petit, je leur ai naturellement lâché la main. Mais ça s'est pas fait tout de suite. C'est resté en place pendant 2 mois au moins. Octobre, novembre. Première semaine, 1,055. Deuxième semaine, 1,1078. Troisième semaine, 1,16. On a passé la première dizaine là. Fin d'octobre, 1,207. Début novembre, 1,27. Fin novembre, 1,476. Début décembre, 1,569. On a passé la moitié du chemin. Aujourd'hui, 1,998. Demain, ce sera mieux. Demain, je serai à 2. Je vous ai dit aujourd'hui tout à l'heure, mais demain, je serai à 2. Vous voyez, quand on travaille sur les effets composés, c'est la même chose que quand je produis un épisode de podcast chaque jour, tous les jours, depuis 264 jours. Tous les jours à 7h, il y a un épisode qui sort. Ça arrive parfois qu'ils ne sortent pas à 7h, parce que j'ai pris du retard, mais ils n'ont jamais été publiés le lendemain du jour où ils étaient prévus. Et j'ai l'ambition que ça n'arrive pas. J'ai l'ambition de me tenir à un épisode par jour. Comment voulez-vous, avec une moyenne de 20 écoutes par épisode, arriver à faire 5500 écoutes en 264 jours seulement en faisant un épisode par semaine, ou bien même un épisode par mois? Comment voulez-vous trouver le job de vos rêves en n'envoyant qu'un seul CV? Vous misez tout sur ce CV? Oui, vous avez une chance de l'avoir. Oui, il y a une chance de l'avoir. C'est possible. Mais peut-être que ce sera plus facile avec 10 CV, avec 100 CV. Peut-être que ce sera possible de devenir champion olympique en s'entraînant tous les jours depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Peut-être que ce sera possible en s'entraînant avec des meilleures personnes, tous les jours, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Peut-être qu'il faudra changer de coach, réajuster sa trajectoire. Peut-être qu'on se rendra compte qu'en réalité, quand on travaille, on n'est pas si efficient que ça. On n'est pas si efficace que ça. On n'est pas si motivé que ça. Peut-être qu'on ne veut pas vraiment, vraiment, ce qu'on est en train de dire vouloir. Donc c'était aussi une manière de mesurer ma propre maturité par rapport à ce que je disais vouloir faire. Ça correspond aux moyens. Et quand je vous ai parlé de cheval de Troie émotionnel, quand je vous ai parlé de projection, quand je vous ai parlé d'anticipation, quand je vous ai parlé de mobiliser vos émotions pour ressentir la réussite que vous pourriez ressentir juste en étant devant vos objectifs qui sont hors de votre portée le matin quand vous êtes debout à 5h30 ou à 6h du mat, alors que personne ne vous l'a demandé. Il n'y a pas eu votre maman derrière, il n'y a pas eu votre boss à vous dire de vous sortir les doigts du derrière, il y a juste vous avec vous-même. Et il y a des jours, oui, je me suis levé à 5h du mat. Et le lendemain, j'étais mort. Parce que j'étais pas habitué, mais je me suis fait violence. Mais pas violence pour me faire souffrir. Violence pour arriver à passer des caps. Et ça, c'est différent. Mais je le recommande pas à tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Et je suis pas quelqu'un de hardcore. Quelqu'un comme David Goggins, c'est quelqu'un de hardcore. Lui, il fait les choses à fond. David Goggins, dont je vous invite à découvrir les conférences, les vidéos, les ouvrages, qui pourraient vous inspirer sur le plan de la performance, justement. Donc, ajuster les moyens. Et puis, revenir aux objectifs. Est-ce que j'accomplis tous mes objectifs? Est-ce que ces objectifs me conviennent encore aujourd'hui, maintenant que la période est passée? Parce qu'au bout d'un moment, par exemple, mettre mes plus belles chemises, mettre des boutons de manchette, alors que je suis tout seul de chez moi à faire ma vaisselle avec mes boutons de manchette, j'avais l'air malin. Mais j'étais content. Comme il dirait dans le film La Cité de la Peur, Quand je suis content, je vomis. Je suis très très content. Toujours est-il, les moyens sont à adapter aux objectifs. Et puis les objectifs sont à adapter aux moyens. Et tant que vous êtes en accord avec la vision que vous avez établie au départ, il s'agit de faire progresser cette boucle. Et il s'agit de faire également attention au statu quo. C'est-à-dire qu'il y a des moments pendant lesquels peut-être que je vais atteindre 100% de mes objectifs. Eh bien, la première fois que j'ai atteint 100% de mes objectifs, c'était à la mi-novembre. Je l'ai encadré en vert. J'ai écrit tout en rouge. J'ai écrit 42 pourcentages en rouge pour arriver à encadrer le 38e en vert. À ce moment-là, j'avais réussi à avancer sur le fait que j'avais créé les documents qui me permettaient de pousser mon entreprise, ou en tout cas mes services. J'avais détecté mon premier contrat perso. J'avais réappris à travailler début novembre et j'avais gagné en qualité d'exécution. Fin novembre, j'avais lâché prise et je gagnais mon premier contrat à plusieurs dizaines de milliers d'euros personnel. En décembre, je gagnais ma première mission en tant que manager de transition. À moins de 30 ans, c'est pas banal. Donc j'étais assez fier de celle-là. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai établi d'autres petites victoires, comme le fait de réapprendre à faire du sport tous les jours, de réapprendre à marcher un peu tous les jours, de réapprendre à prendre soin de moi tous les jours, de réapprendre à m'investir dans ce que je fais au quotidien tous les jours, dans mon travail, à mieux manager mon temps, à mieux manager mes relations, à mieux m'investir auprès des personnes qui me tiennent à cœur. Ça ne veut pas dire plus, ça veut juste dire mieux. À mieux faire avec moi-même, à produire des résultats de meilleure qualité. Et en fin de compte, et c'est assez incroyable que ça tombe encore une fois, et vraiment, c'est comme une sorte de programme inconscient, parce que c'est arrivé plusieurs fois pendant le podcast, une sorte de rencontre par sérendipité entre le titre d'un épisode et puis des anecdotes comme ça, comme le fait que ce soit vraiment entre aujourd'hui et demain où j'atteins cet objectif et le fait que cet épisode s'appelle précisément la route de l'exponentiel. Justement parce que j'ai réinvesti en moi et j'ai fait en sorte de mesurer ce réinvestissement. C'est certain qu'il y a des choses que j'ai laissées de côté, c'est certain qu'il y a des choses que je pourrais améliorer. Néanmoins, c'est un premier cap. Et il m'aura fallu 87 jours, soit 12 semaines et demie, pour y arriver. Là où je peux le relier avec la conscience collective, c'est que systématiquement, ces objectifs ne me concernaient pas que moi. Je ne les ai pas partagés à d'autres. Mais mon ambition, c'était pas juste de m'auto-centrer encore plus que mon nombril ne peut parler à mon nombril. C'était vraiment de pouvoir mieux faire avec les autres. Mieux servir une cause collective. Mieux servir du travail collaboratif, du travail co-créatif. Des relations de coexistence, coopétitif. Des relations en co. Co-construites. Pour gagner. Gagner sur le plan social, gagner sur le plan de la communication, gagner sur le plan de l'efficience, gagner tout court, gagner. Et ça marche. Jusqu'ici, ça marche. Ce que je peux vous inviter à faire, partagez vos idées, les mécanismes que vous mettez en place dans votre quotidien pour progresser, pour réinvestir en vous. Peut-être que vous avez fait des formations, peut-être que vous-même vous vous auto-formez, peut-être que vous lisez, peut-être que vous travaillez d'une manière ou d'une autre avec d'autres personnes, des coachs, des accompagnateurs, des facilitateurs, des psychologues, j'en passe et des meilleurs. Il y a tout un tas de personnes, et ça peut être aussi nos amis, notre famille et ainsi de suite. Il y a tout un tas de personnes douées pour ce faire et nous sommes plus ou moins réceptifs à ces personnes-là. Qui sont-elles pour vous? Comment ça fonctionne? Ça m'intéresse aussi que vous le partagiez sur le compte Instagram Les Doigts dans le Miel en mentionnant le compte ou en m'écrivant en message privé ou bien en commentant la photo dédiée à l'épisode du jour qui est donc l'épisode 264, le magnifique épisode 264 qui nous dirige tout droit après ces 7 derniers épisodes dédiés à l'émancipation collective et bien vers l'intelligence collective de nos institutions à nos organisations, où pour le coup je vais remonter dans l'environnement, dans nos environnements de travail, dans nos environnements académiques, mais qui nous touchent, nous, en tant que personnes avant tout. Et c'est justement en faisant la liaison entre ces deux-là que je serai amené à vous parler par exemple de Juan Branco avec son fameux discours à l'IX sur le fait que la République ne vous appartient pas lorsqu'il parlait aux polytechniciens ou aux futurs polytechniciens. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, sur ces belles paroles, c'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée et à demain.